Allô?
Oui, bonjour. Que je suis à la chambre des notaires de la Gironde.
Alors oui, c'est pour la permanence téléphonique, oui, tout à fait.
Ah, d'accord, très bien. Vous pouvez me renseigner du coup?
Ben, je vais essayer, je vais voir.
D'accord, très bien. Voilà, c'était pour vous exposer ma situation. En fait, je suis ben, divorcée. J'ai refait ma vie avec aussi mon conjoint qui, lui, s'est dépaxé. Ça fait bon, quelques temps que nous sommes ensemble. Et donc, je voulais. Par contre, notre situation est différente l'un de l'autre. Lui a, je dirais, est salarié avec. Des revenus plus importants et moi du coup suite à des accidents de vie là je n'ai enfin, je suis demandeur d'emploi voilà et j'ai eu quelques épreuves de vie impactantes et je suis en train de monter un dossier MDPH pour demander l'AAH. Donc au regard des différences de revenus sachant que bah, lui est propriétaire de son appartement là où je loge, du coup, en famille recomposée. Si nous souhaitions nous pacser, du coup, est-ce que moi, je dois être solidaire des dépenses de la vie courante, du coup?
À partir du mot, comment dire, en matière de PACS, oui, il y a une solidarité sur comme vous dites, sur les, comment est-ce que le texte exactement, c'est pas de dépenses de la vie courante, je sais plus, enfin, c'est une aide matérielle au quotidien, et du coup, ça emporte, oui, sur les dépenses, du quotidien, oui, tout à fait.
D'accord. Mais s'il y a des différences de ressources financières,
Ah ben,
c'est...
après, c'est, comment dire, dans. Et ça c'est vous qui allez le gérer. Normalement, c'est chacun à faculté de ce qu'il est capable de verser.
Oui, d'accord. C'est par rapport à une entente interne au couple, en fait.
Tout à fait.
D'accord, ok, très bien. Et par contre, du coup, s'il arrivait quelque chose à mon conjoint, enfin vraiment le scénario extrême, on va dire, du coup, le fait qu'il soit propriétaire et qu'il a un enfant, moi, je suis obligée de quitter les lieux, même pacsé.
Alors, quand vous êtes pacsé, vous n'êtes pas d'office héritier. Alors, en fait, on prévoit bien qu'il y a un alignement sur le plan fiscal entre le partenaire pacsé et le conjoint, mais c'est uniquement sur le plan fiscal. C'est-à-dire que le partenaire, il ne va pas être héritier d'office.
Oui.
Il faut prévoir un testament. Alors, la difficulté, c'est que ben, il y a des enfants. Là, il a des enfants d'une première union, c'est bien ça?
Oui, moi j'ai une fille de mon côté et lui a un garçon, oui, effectivement. Donc,
Et en fait, ben, vous savez qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. On a ce qu'on appelle la réserve héréditaire.
oui.
Donc là, ben, son fils, normalement, doit obligatoirement recevoir minimum la moitié du patrimoine. C'est ce qu'on appelle la quotité disponible d'ordinaire dont on peut disposer. Quand vous êtes marié, en fait, il y a une quotité disponible spéciale entre époux qui permet à ce que le conjoint récupère automatiquement l'usufruit. Donc en fait, on est mieux protégé. Avec le mariage, c'est plus facile de protéger le conjoint. Alors, on trouve quand même des solutions, c'est-à-dire que quand c'est comme ça, on se pacse et on double ça d'un testament. Par contre, l'efficacité du testament est moindre, ça va dépendre. Enfin, bon, ça, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça par téléphone. À la limite, il faudrait que vous preniez rendez-vous chez un notaire. Quand c'est comme ça, on vous fait des schémas pour vous expliquer la quotité disponible d'ordinaire, etc. Et si on peut faire des simulations de calcul.
Oui, après mon c'est vrai que moi je viens d'Auvergne donc par enfin tout au long de mon parcours de vie c'était le notaire de d'Auvergne après étant à Bordeaux je n'en ai pas mais
Après, les renseignements sont gratuits, donc vous pouvez choisir
Ah,
un notaire,
d'accord.
vous pouvez prendre rendez-vous. Parce que là, comment dire, ce
Ben,
que vous envisagez de faire, c'est un nouveau départ, etc. Donc oui, à mon avis, ça vaut le coup de prendre vraiment un rendez-vous chez le notaire qui va vous expliquer bah, peut-être un peu plus dans le détail le PACS et quoi faire pour vous protéger en cas de décès. Et enfin, si c'est une volonté
oui,
des partenaires, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus.
Oui, parce qu'on on avait commencé à l'évoquer avec le notaire de mon conjoint. Effectivement, elle avait dit après le PACS, c'est ce qui permet d'aller sur l'usufruit et effectivement faire un testament. Par contre, je vois des cas autour de moi, de gens même qui se sont mariés. Enfin, j'ai eu différents cas de figure et d'un remariage. Enfin, voilà, il y a une vie précédente. Et du coup, après, les enfants, si on est juste sur l'usufruit, l'enfant direct peut demander à vendre ou à
Non.
racheter, non?
Non, non, non. Quand on a l'usufruit, c'est un droit viager. C'est-à-dire qu'il s'applique jusqu'à la fin de, enfin, jusqu'à à la fin de vie de l'usufruitier. Donc, non.
Oui.
Par contre, si vous voulez vendre en tant qu'usufruitier, ben, l'enfant sera vendeur parce que lui, il est nu propriétaire. Par contre,
Oui.
l'enfant ne peut pas contraindre l'usufruitier à vendre.
Ah d'accord, ok. Donc la deuxième étape après le PACS, pour me protéger, ça peut être de me permettre d'avoir l'usufruit parce que comme il a différents patrimoines, est-ce que l'usufruit est conditionné aussi par la moitié la règle
Ben,
là de la moitié
alors
de la valeur.
c'est là où c'est compliqué à expliquer sans schéma. Mais
Mais
oui, c'est
je
là
vous
où en
écoute.
fait
Ouais.
on ne doit pas dépasser la moitié. Et en fait, l'usufruit en fait a une valeur moindre que la pleine propriété. Donc ça va dépendre du patrimoine de l'efficacité du testament va dépendre du patrimoine de celui qui le fait. Mais ça, c'est vrai que c'est plus facile en rendez-vous parce qu'on fait des schémas en fait.
D'accord, ok. Donc
Mais si votre... Oui.
c'est pas pile la moitié en fait. Par exemple, si tout le patrimoine vaut, mettons 500, par exemple l'appartement en vaut 200, finalement c'est 250 la moitié de 500, admettons. Si l'appartement qui
Après,
met
c'est parce qu'en fait, on fait une imputation en assiette et pas en valeur. Parce qu'on pourrait être tenté de dire, vous savez, l'usufruit, en fait, il est évalué par rapport à l'âge de l'usufruitier. C'est sûr que quand on a 95%, le droit de rester dans le bien jusqu'à la fin de sa vie, ça a moins de valeur que quand on en a 35. Et donc, on a une clé de répartition par rapport à ça. On vous dit que un usufruit pour une personne de plus de 91 ans, ça vaut 10% de la pleine propriété. Entre 80 et 91, ça vaut 20%. Entre 71 et 81, 30 et ainsi de suite. Donc en fait, on pourrait être tenté d'évaluer le droit de l'usufruit par rapport à l'âge de l'usufruitier et ben, de se dire que c'est inférieur à la moitié. Mais ça marche pas. En fait, ça marche pas comme ça. On regarde, on impute vraiment par rapport à la valeur. À la valeur du bien. Il faut que dans les faits, l'enfant bah, touche la moitié du patrimoine. Mais hein, on y arrive quand même, en fait. Vu comment on formule nos testaments, on y arrive. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est moins évident que quand on est marié. Voilà. Quand
D'accord.
on est marié, l'usufruit pour le conjoint, c'est simple, en fait. Les enfants de la première union, il n'y a aucun souci, c'est prévu par le texte. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours aux clients que. Parce qu'on dit toujours que le PACS, c'est un peu comme le partenaire a les mêmes droits que la personne mariée. Non, c'est pas tout à fait vrai sur le plan fiscal, mais sur le plan civil, c'est un peu plus compliqué pour arriver aux mêmes effets. Voilà. Il y a un peu plus un aléa.
D'accord, ok. Parce que moi, effectivement, ce qu'on m'avait évoqué aussi, c'est que comme j'ai été mariée 20 ans sur une première partie de vie, j'ai aussi s'il arrivait quelque chose à mon
Intention,
mari,
bien
à
sûr.
mon ex, pardon, mon ex-mari avec moi, avec qui
Intention, bien
je
sûr.
m'entends bien, il y a la pension de reconversion et si,
Conversion, oui.
oui, de reversion. Si je me remariais,
Vous la
je perds,
perdez.
je la
Oui,
perds.
tout à fait. Donc en fait, on faisait ça, on peut pas, voilà, on peut pas gagner sur tous les plans.
Oui. Mais bon, en tout cas, en se paxant, du coup, je peux quand même aller sur l'usufruit où c'est un calcul à faire qui
Bien, en
se
fait,
fait par rapport à mon âge et plutôt à
non.
mon âge.
Non, parce qu'en fait, mais en fait, on rédige le testament d'une façon où comment dire? Parce qu'en fait, le risque, c'est qu'en fait, les testaments puissent s'exécuter, mais que vous deviez reverser quelque chose à l'enfant. Et en fait, on le rédige d'une façon pour que ça n'arrive pas, en fait. Voilà.
Ah oui, voilà. Donc, ok. De manière à, voilà, évaluer vraiment l'imputation pour
C'est
être bien
ça,
dans les
tout à
coûts,
fait.
pour que je ne reverse rien voilà, à l'enfant après. Ok. Et là, on est protégé pleinement. Après, si le patrimoine évolue entre-temps, entre le moment où on fait le testament, mettons en 2026, et puis qu'en 2035, le patrimoine a évolué, est-ce qu'il faut réévaluer le testament parce que les
Alors
montants
non,
bougent?
non, en fait, dans le testament, on met pas de valeur. C'est-à-dire qu'on quand on le fait, on va le faire par rapport à la valeur du patrimoine à l'instant T. Par contre, il faut savoir que notamment, ça dépend aussi comment évolue votre relation, ça dépend comment évolue le patrimoine, mais au départ, pour essayer de que ce soit efficace, on va peut-être juste faire porter l'usufruit que sur entre guillemets, la résidence principale. Imaginons par la suite, monsieur fait un héritage, il a 4 appartements, il a gagné au loto, etc. Peut-être que du coup, là, on peut faire évoluer le testament, ou alors vous déménagez. Il faut
Mais
faire
nous, ça serait
attention.
le cas. Nous, ça serait justement juste la résidence principale, parce que là, il est fini d'être payé, cet appartement, c'est notre résidence
Oui.
principale. Et après, il a investi sur d'autres biens et de la défiscalisation. Et là, pour le coup, qui représente un volume, alors il y a des crédits dessus, mais la résidence principale, le montant, mettons, est de 300. Le reste du patrimoine, où il y a un emprunt sur une maison de 500, plus deux autres biens, l'enfant est largement au-dessus des 300 de la résidence principale. Et c'est juste
Oui.
me protéger sur la résidence principale,
Et donc
voilà.
en fait, du coup, ce serait même pas déshériter l'enfant, c'est juste laisser l'usufruit. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant n'est pas déshérité, c'est juste qu'il ne touchera son héritage qu'à votre décès sur la résidence principale.
Oui, ou alors de me mettre pleinement propriétaire que sur cette résidence principale. Ça, c'est aussi
Alors,
dans le
mais ça.
testament.
Voilà, ça c'est possible aussi. Donc, mais d'où l'intérêt en fait de refaire le point avec un notaire pour remettre les chiffres à plat, faire un peu tous les scénarios possibles et inimaginables au regard du patrimoine.
Oui, c'est ça. Mais
Voilà.
c'est
Tout ça,
énorme.
oui, tout ça pour dire que du coup, le testament, oui, en fait, quand c'est comme ça, quand vous faites un testament, il va être enregistré au fichier de disposition dernière volonté, conservé par le notaire dans son coffre-fort. Donc, ce qui fait que peu importe si vous changez de notaire, vous déménagez ou je ne sais quoi, le testament, en fait, on retrouve toujours le testament qui a été fait. Par contre, le testament, il n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, là, à l'instant T, de par le patrimoine, ce serait juste usufruit. Comme vous me dites, peut-être que dans 5 ans, votre relation évolue, le patrimoine évolue. Peut-être que là, le laisser en pleine propriété, ce serait possible. Donc quand c'est comme ça, il faut refaire le point, revenir chez le notaire, refaire le point, retirer le testament et le refaire. Donc oui, il faut pas hésiter. Le rendez-vous de renseignement est gratuit chez le notaire et ça permet de refaire le point pour que ça colle à la situation du moment.
En pleine propriété, ça veut dire que
Mais ça veut dire que c'est vous qui récupérez l'appartement, et du coup, à votre
oui.
décès, il fait partie de votre succession, et là, ce serait votre fille qui en hérite.
Oui, c'est ça, hein. Voilà. OK,
Voilà.
c'est ça.
Par contre, en faisant ça, donc avec l'usufruit, en fait, l'enfant, il héritera de l'appartement, c'est juste qu'on attend votre décès il
Oui,
attend votre
ça
décès pour. Voilà, donc
oui.
c'est pas du tout la même chose.
Oui.
Du coup, il faut bien faire attention que le reste du patrimoine permet à l'enfant de toucher la moitié du patrimoine de son père, en fait. Et
Oui, carrément.
quand on parle de la moitié du patrimoine, c'est ce qui existe au jour du décès, mais aussi tout ce qui aurait pu être donné par avant. Puisque, bien entendu, imaginons quelqu'un qui voudrait déshériter ses enfants, s'il donne tout avant, et puis au jour du décès, il n'y a plus rien, la moitié de zéro, ça fait toujours zéro, alors qu'en fait, il aurait tout dilapidé ou distribué avant. Donc, quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle une réunion fictive, on réunit tous les biens qui ont été donnés auparavant pour justement qu'au final, l'enfant touche bien sa part de réserve, qui est de moitié quand il y a un enfant.
Oui, c'est ça, oui. Donc, effectivement, voilà, pour revenir à ce que je disais, la valeur du bien, là, de la résidence principale, est bien en dessous du reste
De la moitié du
du...
de la moitié
Oui.
du reste du patrimoine, c'est
Oui.
ça?
Ça compte le fait que, mettons, il y ait trois autres biens, mais avec des emprunts, comme il y a une assurance, il compte, mettons, une maison à 500 plus deux autres appartements à je dis n'importe quoi, 200 et 200, ça fait 7, 8, 9, 900, même si c'est avec des emprunts, et que là, la résidence principale en vaut 300, il finit d'être payé, là, c'est OK.
Pour faire les calculs, en fait, au moment du décès, on prend la tige, moi le pastiche. Mais là, vous me dites que les prêts seraient, sont couverts à 100% sur la tête de monsieur, c'est ça? Donc,
Oui.
en fait, les emprunts seraient remboursés. Donc, oui, on
Oui.
tient compte de. Il n'y aurait plus de passif, en fait, puisque l'emprunt serait
Oui.
remboursé par
Oui.
l'assurance.
Il n'y aurait plus de passif et du coup, là, son fils a largement une valeur au-dessus de la résidence principale, quoi.
Tout à fait.
D'accord. J'essaye de comprendre
Par contre,
la
il faut bien
logique.
faire un testament, en fait. Il faut bien faire un
Oui.
testament. Et après, bah, c'est pareil sur le PACS. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a deux types de régimes. Maintenant, le régime par défaut, c'est le régime de la séparation de biens. Vous avez le régime de l'indivision. Le régime de l'indivision, ça ressemble un peu plus au régime de la communauté, c'est-à-dire que tout est présumé appartenir moitié-moitié au partenaire, en fait. Donc
Ah
là,
oui,
c'est pareil, il y
d'accord.
a aussi la question du choix du régime de PACS va se poser également.
Oui, donc
Mais là,
soit
enfin
c'est
là,
comme.
vu ce que vous me décrivez, je vous invite vraiment à reprendre rendez-vous avec
Oui.
monsieur, en fait, pour que vous obteniez le même degré d'information. Et puis vous sachiez un peu où vous allez, ce qui
Oui,
existe.
ça c'est clair
Voilà.
qu'on va pas faire. C'était une
C'est un
première.
premier, des prémices, un
Enfin,
premier
des
contact.
prémices, et on avait déjà évoqué ça avec son notaire, mais ça faisait un petit moment. Donc, mais je savais pas que le PACS, donc il y a le régime de séparation de biens ou de la communauté.
Non, régime de l'indivision. Et le régime de l'indivision, ça s'apparente un peu. C'est un peu comme la séparation de biens et le régime de communauté réduit aux acquis pour les époux mariés. Ça, si vous allez sur le site de service public, du service public, ils expliquent très bien en fait les différents régimes. Vous avez beaucoup d'explications par rapport à ça.
D'accord, ok. Et dans mon cas de figure, vous conseillez plutôt séparation de biens. C'est que ce qui
Ben,
lui
vous avez tous les
appartenait.
deux. Alors, d'un côté, vous avez des différences de revenus, mais vous avez tous les deux des enfants d'une première union. Mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire, en fait. Là, ça veut dire que ben, les revenus, comment dire, oui, partagez tout en deux. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Ça va dépendre de ce que vous voulez, en fait.
J'ai pas bien compris ce que veut dire séparation de biens et indivision, la différence entre les
Séparation
deux.
de biens, c'est chacun son patrimoine en fait, chacun son patrimoine. Donc, si vous avez très peu de revenus, enfin, forcément, vous allez avoir
Enfin,
moins de choses.
moi j'ai du patrimoine puisque j'ai une vie avant, donc j'ai encore un bien voilà, de mes parents, plus de l'argent de vente de biens d'avant, quoi, qui
Oui,
est
bon.
plutôt sous forme de pécule, oui.
Alors, enfin, ben, moi, dans votre situation, j'aurais tendance à dire quand c'est des nouvelles. Enfin, comme ça, des réunions, seconde union, chacun son patrimoine, ça permet de respecter l'équilibre par rapport aux enfants, parce qu'en fait, ça évite de déshériter indirectement chacun ses enfants. Et après, par contre, vous choisissez comment vous voulez protéger votre partenaire.
Oui,
C'est-à-dire
c'est
que,
ça.
voilà, donc moi j'aurais tendance à dire, moi, enfin, ça n'engage que moi, mais j'aurais tendance à dire oui, comme quand il y a des enfants comme ça d'une première union, ça permet vraiment chacun son patrimoine et ça évite de mélanger les patrimoines.
Oui, chacun son patrimoine, donc séparation de biens. Et après, si mon conjoint veut me protéger,
Voilà, c'est ça.
ayant une aisance de vie plus forte que la mienne, ça serait de faire usufruit avec éventuellement le testament me désignant, voilà, par rapport à la valeur de la moitié, comme vous disiez, pour que s'il lui arrivait quelque chose, je puisse rester sur la résidence principale. Bon, la différence, oui, c'est que c'est ma fille qui hérite. Sinon, à ma mort, voilà, j'ai compris, c'est son fils qui récupère, mais on ne peut pas me mettre dehors.
C'est ça, tout à fait.
Oui. Ok. D'accord. Très bien.
Et oui, en fait, juste une précision aussi, que vous avez mis sur vos parleurs, il faut savoir aussi qu'en cas de décès, en fait, le partenaire pacsé aura un droit temporaire au logement pendant 1 an. Bon, ça règle pas mais ça permet au moins déjà de se retourner. C'est-à-dire que si votre partenaire ne veut pas vous. Enfin, protéger plus que ça, vous avez au moins 1 an pour rester dans le logement et trouver une solution pour vous retourner.
D'accord. Et après, pour protéger, c'est plus aller auprès des banques, mais pour protéger le conjoint, du coup, après, il y a les assurances rentes viagères, les assurances rentes viagères ou plan épargne retraite, je ne sais pas trop là pour.
Oui, là pour le coup, là c'est plus avec un gestionnaire de patrimoine qu'il faut voir ça. Il y a aussi il y a le principe de l'assurance vie aussi. Alors c'est pareil, tout ça, en fait, il y a des garde-fous, notamment l'assurance vie, on dit que c'est hors succession, par principe. Alors bien entendu, sous réserve que les primes ne soient pas manifestement exagérées, puisqu'en fait l'enfant doit toucher la moitié du patrimoine, donc on considère que il peut y avoir une somme qui est allouée à d'autres personnes que l'enfant, ça reste l'aléa de l'assurance vie. Par contre, si, je sais pas moi, il y a zéro, il y a 1 million sur le contrat d'assurance vie, il y a zéro sur les comptes bancaires, ben là, en fait, on considère que les primes sont manifestement exagérées et du coup, l'enfant a le droit à, comment dire, à être indemnisé par rapport à ça. Mais oui, par le biais de la gestion du patrimoine, vous avez des placements qui éventuellement peuvent protéger le partenaire taxé.
Oui, parce que c'est surtout de faire face après, même pendant la retraite, si j'ai une retraite qui sera moindre que mon conjoint, de faire face aux charges fixes de l'appartement. Du coup, ça peut être de mettre en place une assurance de rente viagère aussi, peut-être. Ça existe ça pour que je puisse avoir après mensuellement quelque chose qui m'aide à faire face aux charges fixes si j'ai une retraite moindre.
Après, faut voir avec un gestionnaire de patrimoine parce que les outils évoluent aussi avec le temps. Après, nous, c'est vrai que nous, en tant que notaire, on entend plus parler de l'assurance vie avec un capital qui est versé, en fait. Après, vous avez de l'assurance, vous avez aussi de l'assurance décès pure et dure. L'assurance vie, ça reste un moyen de placement. Vous placez de l'argent. Si vous le récupérez, alors il y a de la fiscalité, mais vous pouvez le récupérer. En fait, tant que l'assurance vie n'est pas dénouée, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu de décès de celui qui a souscrit, la personne peut récupérer l'argent. L'assurance décès, c'est vraiment une assurance, c'est-à-dire que vous versez quelque chose tous les mois, et puis s'il y a l'aléa de produit, c'est-à-dire le décès de l'assuré, ben, le bénéficiaire touche le capital. C'est vraiment purement. C'est-à-dire tout ce que vous versez, c'est perdu tant que vous n'êtes pas décédé.
D'accord. Ah oui,
Voilà.
d'accord.
Donc, après, faut se rapprocher d'un gestionnaire de patrimoine. Après, c'est vrai que dans le cadre, je ne sais pas ce que monsieur fait, mais des fois, dans le cadre des entreprises, il y a des capitales d'essai qui sont alloués en cas de décès, etc.
D'accord. Donc du coup, l'assurance décès, ouais, c'est perdu si pendant des années il a versé, ça fait 20 000 euros. Et que je décède avant lui, il perd son argent, mon
Ah non,
conjoint.
c'est juste non, 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 du coup, c'est juste qu'il faudra qu'il change le bénéficiaire.
Ah
Mais
oui, d'accord.
ça reste de l'assurance. Ça reste de l'assurance.
Oui, ok. Par contre,
Voilà.
s'il m'a désigné et qu'il décède lui, et qu'il y a 20 000, admettons, c'est que des exemples comme ça, je toucherai la somme de 20 000 parce qu'il m'a mise comme bénéficiaire.
Voilà, et ça, c'est purement de l'assurance décès. C'est lié à un aléa, en fait. Il y a décès,
Oui.
bénéficiaire touche. Ça n'a rien à voir avec la succession. Ce n'est pas un moyen de placement. S'il a versé 200 euros tous les mois, il peut dire, ah, bah, je récupère ce que j'ai versé. Non, ce n'était pas un placement, c'était de l'assurance.
Oui, d'accord, je comprends. Ok. Donc, mais voilà, c'est de causer avec un gestionnaire de patrimoine pour peut-être le système de rente viagère. Je trouvais ça intéressant aussi d'avoir plutôt mensuellement quelque chose qui aide le conjoint qui a un revenu plus faible, en fait. Il y a
Oui,
des
mais là,
astuces
faudrait vous
qui.
renseigner sur les outils de gestion de patrimoine, en fait, plus.
Oui.
Donc,
D'accord, ok. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose, même si c'était assez superficiel par rapport à ce que je vous évoquais de conseils importants, hormis
non,
bon.
mais comme je vous dis, enfin moi là, je vous invite. Il y a un vrai projet, c'est pas juste un renseignement comme ça.
Oui.
Voilà. Moi, je vous invite à prendre rendez-vous avec bah, le notaire de monsieur, enfin, ou votre
Oui.
nouveau notaire, et d'arriver avec un dossier, justement, un état du patrimoine. Enfin, voilà, c'est plus facile, on peut mettre des chiffres, faire
Oui.
des propositions, et voilà. Et
Avec le
puis,
patrimoine de chacun, ouais.
voilà, et si vous passez, alors en fait, le notaire peut rédiger le PACS, sinon après, bah, vous le faites en mairie, et surtout, bah, si vous le faites en mairie, faites bien attention quand vous cochez, en fait.
Oui, séparation de biens, oui.
Séparation. Alors maintenant, c'est le régime par défaut, hein, légal, et gardez bien les documents, parce que souvent les gens gardent juste le récépissé et après on n'a plus la convention de PACS, en fait.
Et c'est payant auprès d'un notaire de le faire faire par un notaire, le PACS?
Oui, quand c'est comme ça, oui, à partir du moment où il y a un acte, là, ça devient payant, oui.
Oui, d'accord, ok. Donc, ok. Donc, il faut juste dernière question, j'ai il faut cocher ou pas cocher ou c'est d'office si on veut vraiment chacun son patrimoine sur le pacte.
Séparation de biens, mais vous allez cocher en fait ces régimes. Ça va être sur le CERFA, l'imprimé CERFA. Vous allez voir, c'est bien marqué. Vous cochez l'un ou l'autre, régime légal, séparation de biens ou régime de l'indivision. Donc c'est bien coché.
C'est bien écrit, régime légal, séparation de biens. Ok,
Ouais,
d'accord, bien
tout à fait.
coché. Ok, très bien. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces premières infos.
Alors excusez-moi, par contre, c'est vrai que nous, dans le cadre de la permanence téléphonique, si vous en êtes d'accord, en fait, c'est de façon anonyme, mais on prend quand même quelques renseignements. Donc, moi, j'ai noté que vous êtes une femme. Alors, je suis désolée, c'est pas très délicat, mais votre tranche d'âge.
Oui, et
Alors,
je vous donne mon âge exact.
comme vous voulez, si ça vous
Oui,
gêne pas.
53.
Vous avez une voix toute jeune, j'aurais dit moins.
Oui.
Donc 51-60, on est d'accord. J'ai bien noté que vous étiez demandeur d'emploi.
Oui.
Vous habitez Bordeaux, si j'ai bien compris?
Oui.
Ok. Et après, ben moi, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté le sujet. Et ben on est bon. On est bon.
D'accord, très bien. Ok. Bon,
Bon.
en tout cas, c'est un numéro, voilà, le mercredi ou le vendredi où on peut appeler pour avoir ces premières infos.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de donner, enfin, c'est sensibiliser les gens. Mais après, bon, l'idée, c'est de prendre un vrai rendez-vous plus
Oui.
ciblé. Là, ça vous donne des pistes
Oui.
de réflexion. Donc là,
Oui.
justement, ce que vous devez retenir, ben, c'est, enfin, à mon sens, là, juste un résumé rapide, c'est attention déjà au choix du régime, enfin, du régime du PACS, du type de PACS. Ensuite, vous avez possibilité de vous protéger. Donc, la seule limite, c'est faut pas que ça porte atteinte à la réserve de l'enfant. Donc, il faut absolument faire un PACS. Enfin, un PACS et un testament. Et ensuite, parce qu'il y a d'autres moyens aussi au niveau de la gestion de patrimoine pour essayer de vous protéger de façon autre. Voilà. Mais vous avez déjà ces pistes de réflexion-là et après, bah, c'est à approfondir selon votre situation précise.
D'accord, très bien. Et l'usufruit, ça passe par un testament quand même. Ça s'appelle un testament aussi quand on donne l'usufruit à
Oui, en
son.
fait, à partir du moment où c'est une disposition qui s'applique en cas de décès, oui, ce sera par
D'accord.
testament, tout à fait.
Ok. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Bah, merci beaucoup et bonne après-midi. Oui.
Merci, au revoir.
Merci. Au revoir, madame.